Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Connaissez-vous, mes frères, parmi les hommes, dans tout le cours de l'histoire humaine, un souverain dont le royaume se soit effectivement étendu sur toute la terre? Pouvez-vous nommer un prince qui ait eu pour sujet des citoyens de tous les pays de la planète? Y a-t-il eu ici-bas une royauté universelle? Bien sûr, cela a été l'ambition de bien des conquérants. On pense à Alexandre le Grand ou à Napoléon et à tous ces empires qui, depuis les Mèdes et les Perses, jusqu'aux Américains aujourd'hui, en passant par les Romains, les Mongols, les Mèdes, les Turcs, ont entrepris la conquête méthodique de tout l'univers. On peut aussi penser à Charles Quint, sur les terres de qui le soleil ne se couchait jamais, et à beaucoup d'autres. Mais à chaque fois, on est obligé d'admettre que malgré les titres flatteurs que leurs courtisans pouvaient leur décerner, ils sont restés très loin du compte. Le seul et unique roi universel, le seul de toute l'histoire humaine qui vraiment est honoré comme roi par des citoyens de tous les pays du monde, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en a pas d'autre parmi les souverains purement temporels, comme on vient de le voir, mais pas non plus dans l'ordre religieux. Car même si Bouddha, Confucius ou Mahomet ont des dizaines, voire des centaines de millions d'adeptes, aucun d'eux n'est considéré comme un roi, même par ses disciples. Aucun d'eux n'est un souverain actuellement vivant, réellement investi d'une royauté universelle sur cette terre. Seul Jésus est ainsi honoré comme roi. Et même en notre 21e siècle, au milieu de la plus terrible crise qu'ait jamais connue la Sainte Église, il l'est encore avec une ferveur, une constance et une fidélité que pourraient envier beaucoup de dirigeants politiques. C'est dire, mes frères, toute la force, toute la justesse, toute la vérité de l'invocation que nous allons lancer ce soir vers notre Seigneur Jésus-Christ en le chantant et en l'appelant « Ô Rex Gentium, ô roi des nations, ô roi de tous les peuples ». Vous avez reconnu une des sept antiennes O, ces grandes antiennes solennelles que la liturgie place avant Noël, du 17 au 23 décembre, lors de l'office de Vêpres, juste avant et après le Magnificat, ces sept antiennes O que normalement vous pourrez assez facilement trouver dans votre missel. Elles partent de l'éternité. La première s'adresse à notre Seigneur Jésus-Christ pour lui demander de descendre sur cette terre et le nomme O Sapientia, O Sagesse, ce qui est son nom éternel, puisque même s'il ne s'était jamais incarné de toute éternité, il serait la sagesse. Il est la sagesse. Le Verbe de Dieu est la sagesse. Et ensuite, on passe par les différentes étapes de l'Ancien Testament. Pensant à Moïse, on l'appelle sous le nom de O Adonai. En pensant à David, on l'appelle sous le nom de O Clé de David, etc. Et ce soir, donc, nous l'invoquerons sous ce titre de Roi des nations. O Rex Gentium, O Roi des peuples, littéralement des gentils, ceux qui ne sont pas juifs. O Désiré des nations. Desideratus eorum. Et ensuite, l'antienne continue en l'appelant Lapis angularis qui facis utraque unum. Ô pierre angulaire en qui se joignent les deux murailles. Et on termine en demandant, comme toutes les antiennes, venez, venez, Et salva hominem quem delimo formasti. Venez et sauvez l'homme que vous avez formé du limon de la terre. Que nous dit donc cette antienne? Eh bien d'abord, comme on vient de le dire, que notre Seigneur est le roi universel, le roi de toutes les nations, O Rex Gentium. Et c'est un fait qui n'est pas perçu seulement par la foi, c'est un fait que tout le monde peut constater, qui était bien sûr beaucoup plus visible à l'époque de la chrétienté, lorsqu'un Clovis, un Charlemagne, un Saint-Louis se reconnaissaient publiquement par la cérémonie du sacre les vassaux de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien plus récemment, lorsque la constitution même des États proclamait la royauté du Christ, comme c'était encore le cas en Espagne, en Irlande, ou dans beaucoup de pays d'Amérique latine il y a moins d'un siècle. Mais même aujourd'hui, en nos tristes temps d'apostasie, il reste honoré comme roi par des millions de fidèles répartis parmi tous les peuples de l'univers. Et on constate aussi qu'il reste des traces de sa royauté, même dans les nations apostates, par exemple dans notre calendrier, ou bien dans le nom de Messie que les musulmans continuent à attribuer au Christ, même s'ils ne savent plus ce que signifie ce titre, qui a été vidé de sa substance, comme la fête de Noël dans nos pays laïcs, mais qui malgré tout demeure un hommage peut-être involontaire et inconscient, mais un hommage à la royauté de notre Seigneur, sa royauté universelle. Notre Seigneur est donc roi, Rex Gentium, et il est aussi le désiré des nations. C'est un deuxième fait unique dans l'histoire, particulièrement surprenant, qui devrait troubler les incroyants s'ils acceptaient de le regarder en face. Personne n'a jamais été attendu, annoncé, désiré par tout un peuple et prédit pendant des siècles par des oracles enregistrés dans les archives officielles de la nation, comme le Messie des Juifs. Il y a eu toutes sortes de prophéties qui se sont succédées pendant des siècles, et précisément, les antiennes eaux de la liturgie sont comme la cristallisation de ces annonces. L'Église a pris les formules les plus expressives qu'on pouvait trouver chez les prophètes et les a utilisées pour chanter ses appels à notre Seigneur. Par exemple, ce titre de « désiré des nations » vient du prophète Agée. Agée, après la construction du deuxième temple de Jérusalem, s'adressait aux Juifs qui étaient parfois un peu tristes parce qu'ils estimaient que ce deuxième temple n'avait pas la splendeur du premier. Le premier avait été détruit lors de la captivité, ils le rebâtissent le second, mais avec moins de moyens, et certains s'affligent. Et Agée les console, le prophète Agée les console, en leur disant que ce deuxième temple aura une gloire que n'a pas eu le premier, parce qu'il verra le Messie, et le Messie qu'il appelle le désiré des nations. Agée déclare donc, au nom de Dieu, il parle au nom de Dieu, je mettrai en mouvement tous les peuples, movebo omnes gentes, et viendra celui qui est désiré pour tous les peuples, veniet desideratus cunctis gentibus. Et, continue-t-il, je remplirai cette maison de gloire, implebo domum istam gloria. Cette maison, c'est-à-dire le second temple de Jérusalem, celui effectivement qui a vu notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été détruit en l'an 70, à peine 40 ans après la mort de notre Sauveur. Toutes sortes de prophéties annoncent donc le Messie, mais on peut repérer, pour ainsi dire, deux lignes parallèles. Les unes l'annoncent comme le Messie des Juifs et insistent sur le fait que ce sera le descendant de David, figuré par ce grand roi. Et d'un autre côté, d'autres prophéties montre comment il étendra son empire sur tous les peuples. Elles sont séparées les unes des autres, mais ces deux lignes de prophétie peuvent se trouver tout au long de la Bible. Et si on les réunit, elles montrent que le Messie viendra d'abord et spécialement pour le peuple hébreu. Il prêchera spécialement au peuple juif, mais il ne viendra pas seulement pour lui, parce qu'il apportera un salut qui est pour tous les hommes. Il est de cette façon-là, il étendra son empire à tous les hommes. Et c'est effectivement ce qu'a fait notre Seigneur, qui a voulu limiter sa prédication personnelle au peuple juif, afin qu'il ait bien la primauté de l'Évangile, mais qui a ensuite envoyé ses apôtres prêcher au monde entier. Et c'est ainsi, parce qu'il y avait d'un côté le peuple juif, de l'autre côté les autres peuples, les autres nations, que notre Seigneur est appelé la pierre angulaire en qui se joignent les deux murailles qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament, réunis par cette pierre d'angle qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, notre Seigneur vient apporter un principe d'unité en tant qu'il est le roi de tous les hommes. Il va apporter à tous ceux qui veulent se soumettre à sa royauté la paix, et une paix qui est destinée à tous. Notez que la division, la guerre, sont apparues très tôt dans le genre humain. On le voit dès la première génération après Adam et Ève. Déjà, c'est Abel qui est tué par son frère Caïn. On voit cette opposition fratricide entre les deux enfants d'Adam et Ève, et ensuite naissent deux peuples. Donc Adam et Ève ont un autre enfant qui s'appelle Seth, mais naissent deux peuples qui se séparent, avec d'un côté les descendants de Caïn qui vont être portés à l'idolâtrie, qui vont tendre à se révolter contre Dieu, et puis de l'autre côté un peuple qui va essayer de rester davantage dans la justice. Et c'est un constat qu'on fait dès l'origine, à cause du péché originel, du péché de nos premiers parents, et qui s'accentuera tout au long du temps. C'est, on peut dire, la constante de l'Ancien Testament. On voit l'idolâtrie qui progresse dans le monde. Et en face, Dieu doit se réserver une famille spéciale, un peuple spécial, un petit peuple, pour conserver l'espérance du Sauveur, l'espérance du Messie. Dieu vient choisir Abraham et ensuite s'aligner pour le mettre à part, séparé des autres peuples, afin qu'il ne succombe pas à l'idolâtrie et qu'il puisse préparer la venue du Messie en préservant cette attente pure du Messie. Mais quand arrive le Messie, la séparation n'a plus de lieu d'être, et c'est pour ça que notre Seigneur est la pierre d'angle qui va non seulement venir pour les Juifs, mais venir pour tous les autres peuples en les réunissant sous son sceptre et sous sa couronne. Et que vient-il faire? Pourquoi avons-nous besoin de ce roi? On a déjà dit qu'il vient apporter l'unité, la paix, parce que le péché a apporté la division, la guerre, mais il vient surtout précisément nous sauver, car cette guerre n'est pas seulement à l'extérieur de nous, elle est en nous. Nos cœurs ont été envahis par le péché, envahis par l'égoïsme, envahis par la haine, et cela non seulement à cause du péché de notre premier père Adam, mais à cause de tous les péchés que nous-mêmes nous y avons rajoutés. Nous avons besoin d'un sauveur, et c'est pour cela que l'antienne s'achève après avoir invoqué le roi des nations, le désiré des nations, avoir souligné qu'il est la pierre angulaire. On lui demande « Veni et salva hominem, quem de limo formasti ». Venez et sauvez l'homme que vous avez formé du limon de la terre. Et cette mention du limon de la terre nous rappelle que notre Seigneur est le nouvel Adam. Car si on y réfléchit bien, il y avait déjà normalement un chef de l'humanité. Si quelqu'un devait être le roi des hommes, a priori, selon la nature, ça devait être celui qui était le principe de tous, Adam, le père commun, le patriarche universel. Pourquoi n'est-ce pas lui qui est ainsi le roi de tous les hommes? Eh bien parce qu'il l'était et qu'il a failli à sa mission, il nous a trahis, il a emmené l'humanité dans la voie de la rébellion contre Dieu. Et donc, puisqu'il n'est plus capable d'être notre chef, il faut un autre chef du genre humain. Et comment cela était-il possible? Comment quelqu'un, puisque c'était lui qui était le premier principe dans l'ordre humain, le premier principe des hommes, l'ancêtre commun de tous, comment peut-il y avoir quelqu'un qui soit supérieur à cet Adam, supérieur à notre premier père? On était obligé de remonter encore plus haut, de remonter au Créateur. Parce que si le Créateur du premier Adam, si Dieu se fait homme, forcément, du seul fait qu'il est créateur, il a un rang supérieur à Adam et il devient ainsi le nouveau chef de l'humanité. Et c'est ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ, nouvel Adam, qui vient nous sauver, qui vient réparer à la fois la faute de notre premier père et toutes les fautes que nous avons commises à sa suite. Profitons donc bien, mes frères, des quelques heures qui nous restent avant la fête de Noël pour nous mettre dans les dispositions que l'Église veut susciter par sa liturgie, et notamment par ses antiennes aumes et par toute la liturgie de l'Avent. Elle veut réveiller notre désir, notre attente, notre espérance du salut. Et pour cela, elle veut que nous nous rendions compte que nous avons besoin d'un sauveur, que nous nous rendions compte de notre misère. Et que vraiment, avec tous les patriarches de l'Ancien Testament, tous les prophètes, nous l'appelions, nous lui disions, venez, venez me sauver, venez sauver l'homme que vous avez formé du limon de la terre. Et donc, essayons de répéter souvent, aujourd'hui, demain, et encore après-demain, enfin, en nous préparant à cette fête de Noël, répétons souvent ces formules, venez Seigneur Jésus, venez me sauver, nous pouvons les prendre dans la liturgie, dans ces antiennes eaux, nous pouvons en forger nous-mêmes, mais il est important, si nous voulons bien recevoir les grâces de Noël, il est important de se mettre dans ces dispositions de désir, d'attente, et c'est ainsi que, lors de cette fête, nous pourrons réellement profiter de sa royauté. Nous nous soumettrons à sa loi qui est une loi d'amour, une loi de lumière, et en nous soumettant à cette loi, nous pourrons trouver la paix, le bonheur qu'il veut nous apporter. Donc mettons-nous dans cette disposition, demandons-le également à la Sainte Vierge, puisque s'il n'y a qu'un seul roi universel, il n'y a aussi qu'une seule reine universelle, c'est la Sainte Vierge Marie, et elle est là pour aider son Fils dans son œuvre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.